Le service de l'information de CJSO en collaboration avec Lucie Del Parisot, Meubles André Beaulieu et Contact Affaires présente On a des choses à dire avec Jean Lemay.
Non, c'est Sylvain Rochon au microphone. Jean Lemay continue de se remettre de la COVID-19 chez lui après avoir connu les soins intensifs de Charles Lemoyne. Plusieurs d'entre vous avaient sans doute entendu son émouvant témoignage à notre antenne. Alors, nous lui souhaitons une excellente convalescence. Nos meilleurs pensées l'accompagnent. À l'émission aujourd'hui, Denis Marion met son chapeau de politicologue pour nous parler de politique américaine. Jonathan Tremblay, journaliste au Journal de Montréal, qu'on a intimement connu à Sorel-Tracy parce qu'il a d'abord pratiqué son métier au journal Les Deux-Rives, nous parle de son opération à cœur ouvert en pleine pandémie à l'Institut de cardiologie de Montréal. Puis on rencontre, à la fin de l'émission, Antoine Detilly. Ça vous dit quelque chose, ça, de Tilly? Sur les traces de son père Mario, il est arrivé lundi à Sorel-Tracy pour y œuvrer en développement économique. On a des choses à dire. De retour après la pause.
Afin de mieux planifier votre prochaine randonnée en motoneige et pour profiter des meilleures conditions, nous vous invitons à écouter la chronique sur les conditions de sentier motoneige diffusée à tous les jeudis 8h40. Vous obtiendrez un résumé complet concernant les conditions des sentiers et l'organisation des différentes activités. Les conditions sentier-motoneige, une présentation de la halte des 103 îles, Métaux Richer et Frères Inc. et Performance NC.
Ce message s'adresse à l'ensemble de la nation québécoise. Nous devons agir avec force pour freiner la pandémie. Seuls les services essentiels demeurent offerts. Les rassemblements sont interdits. Il est défendu de quitter son domicile entre 20h et 5h le matin. Respectons le confinement et le couvre-feu pour éviter d'être infectés par le virus de la COVID-19. Pour protéger les travailleurs de la santé, nos proches et nos aînés. Car l'important, c'est la santé. Pour plus d'informations, visitez québec.ca/confinement. Un message du gouvernement du Québec.
Chez Meubles André Beaulieu, nous tenons à vous rappeler que nous sommes de tout cœur avec vous dans cette situation particulièrement difficile en vous offrant un service d'urgence avec livraison gratuite pour tous vos besoins. Qu'il s'agisse de réfrigérateurs, congélateurs, cuisinières, laveuses ou sécheuses, contactez-nous sans tarder au 742-2708 ou encore par messagerie Facebook. Visitez lemeublebeaulieu.ca ainsi que notre page Facebook pour de plus amples renseignements et suivre nos mises à jour quotidiennes.
De retour à On a des choses à dire, une présentation de Meubles André Beaulieu, Lucie Dale Parisot, cabinet d'assurance et du magazine Contact Affaires.
Denis Marion est maire de Massuville. C'est d'ailleurs à Massuville que nous le retrouvons, mais nous le retrouvons en sa qualité de politicologue. Merci d'avoir accepté notre invitation, Denis.
Bonjour Sylvain, bonne année en passant.
Ah, bonne année à toi.
Et à tous les auditeurs.
Ben merci en leur nom. On a dit pendant la campagne aux États-Unis, Denis, craindre des manifestations de violence à l'issue de cette campagne. C'est arrivé au Capitole, des partisans de Trump stimulés, pour pas dire encouragés par le président sortant. Est-ce que ça ne dépasse pas à plusieurs points de vue l'entendement Trump qui joue avec le feu et le feu qui prend sans pompiers, on dirait, pour l'éteindre?
Effectivement, en fait, je pense que Donald Trump a envoyé des messages à ses partisans les plus extrémistes. Il a non seulement à ses voteurs, aux gens qui ont souhaité qu'il reste à la présidence, mais aussi à des franges de la société américaine qui est pour le moins, cette frange-là est pour le moins pas en phase avec les valeurs majoritaires de la société américaine, là, pour que de tels déploiements de violence, parce que là, à tous les jours, il y a des découvertes sur ce qu'il y a derrière, ce qui s'est passé le 6 janvier dernier, et c'est assez impressionnant de voir que effectivement, il a comme appuyé sur les bonnes touches pour que ça explose à ce point-là, et c'est probablement, évidemment, ce qui a fait que phénomène absolument incroyable. En moins d'une semaine, la Chambre des représentants a voté sa destitution.
Oui, mais Denis, tout le monde se demande comment ça se fait qu'il n'y avait pas de pompiers pour éteindre le feu? Comment ça se fait qu'il n'y avait pas en nombre suffisant des forces constabulaires là, pour freiner cette émeute?
Plusieurs intervenants, entre autres des gouverneurs des États qui sont les voisins du district de Columbia, oui, Washington, là, ont dit qu'ils avaient offert des ressources, mais que ça avait été refusé. Alors, c'est clair et net qu'il va devoir y avoir des enquêtes qui vont devoir être faites pour comprendre qu'est-ce qui fait que ça n'a pas fonctionné. Ceci dit, à l'heure actuelle, ce matin, les médias citent Washington en état de siège, là. Washington n'aura jamais vu autant de soldats de sa vie. D'ailleurs, quelqu'un disait qu'il y a plus de soldats actuellement autour du Capitole qu'il y a de soldats américains en Afghanistan. Ça donne une idée de l'ampleur de la situation pour protéger le Capitole. Mais il semble assez évident qu'il y ait eu des manques, là, clairement, dans la coordination des services de sécurité autour du Capitole. Peut-on croire sérieusement, là, peut-on imaginer que le Capitole américain, OK, où est la Chambre des représentants et le Sénat, puisse être pris d'assaut par une population déchaînée?
Ouais, mais surtout, c'est d'autant plus étonnant qu'on n'ait pas protégé l'endroit que pendant toute la campagne aux États-Unis, on a dit craindre des manifestations de violence à son issue. Alors, c'est pas comme s'il y avait une grande surprise.
Mais vous avez
là.
Su probablement que le FBI a annoncé qu'ils ont vu sur les réseaux sociaux qui pour la plupart là, ont été on les a arrêtés là, ces réseaux sociaux là, mais on voyait qu'il y avait une organisation pour prendre d'assaut les 50 capitales des États américains. Donc il y a actuellement des mesures de sécurité qui sont prises non seulement à Washington pour l'inauguration, pour la sermentation du président Biden, mais aussi dans chacun des États. Là, vous avez peut-être vu les photos là où on barricade les fenêtres des capitoles, des parlements, des États, des différents États.
À quand dans l'histoire des États-Unis faut-il remonter pour trouver pareille violence, pareille insurrection, là, comme pour reprendre le terme de Joe Biden?
Oui, non, je pense pas qu'on soit capable de remonter nulle part. La dernière réelle insurrection américaine, c'est la guerre de ce que nous on appelle en français la guerre de sécession, là, que les Américains appellent le Civil War. C'est le moment où des États ont décidé de quitter les États-Unis pour créer une confédération au sud pour protéger, entre autres choses, l'esclavage, là, mais c'était il y avait d'autres aspects aussi, là. Mais c'est ce qui est de plus loin en termes d'insurrection. Mais on a Washington n'a jamais vécu de violence à ce point. Le Capitole n'a jamais été assailli de cette façon-là, là, dans son histoire, là.
Incroyable. De plus en plus d'Américains reconnaissent en Donald Trump un homme dangereux, y compris des Républicains. J'entendais un analyste près des Républicains dire du président qu'il était dérangé mentalement, il a dit ça, là, par sa défaite. Est-ce qu'il peut encore faire courir des risques graves aux États-Unis, à la planète, M. Trump, ou ceux qui pensent ça regardent trop de séries là, sur Netflix?
L'impression que j'ai, c'est que ce sentiment-là est partagé autant à l'intérieur des États-Unis, chez plusieurs leaders politiques, qu'à l'extérieur des États-Unis, chez plusieurs des gouvernements. Il reste moins d'une semaine, là. On approche le plus possible du 20 janvier à midi, au moment où la sermentation de Joe Biden se fera. Et c'est évident qu'il y a des inquiétudes, là. Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants est intervenue auprès de l'état-major américain pour dire surveiller le bouton rouge, là, pour pas qu'il décide d'envoyer une bombe nucléaire sur l'Iran.
Ouais, mais ça, c'est-tu complètement farfelu, ça, où il y a vraiment, là, des raisons de craindre?
Ben, il y a eu plusieurs, il y a eu, écoutez, je sais pas si nos auditeurs connaissent l'histoire de Fort Alamo. Trump est allé au Texas cette semaine et il est allé à Fort Alamo. Moi, je vous suggère de voir le film. c'est un extraordinaire film des années 50 sur cette occasion où les Américains essayaient de combattre une invasion là, et c'était une défense. Et symboliquement, ce qu'il disait, c'est je vais me battre jusqu'à la fin là, à toute fin utile. Donc on ne sait pas exactement comment les choses se passent. Par contre, il y a un élément qui est très clair, c'est qu'il est abandonné actuellement. Ses ministres démissionnent, ses collaborateurs démissionnent, il est de plus en plus isolé. La fracture avec le vice-président, M. Pence, est claire, est évidente. Là. Donc,
il lance des appels au calme. Là.
Oui, tout à fait, mais là, et vous avez probablement vu les analyses, pourquoi Donald Trump fait-il ses appels au calme actuellement, tout en ne reconnaissant pas l'élection de...
Ben oui.
De Biden, tout en ne reconnaissant pas qu'il a été destitué hier.
Alors, il parle des deux côtés de la bouche, finalement.
Oui, mais en fait, c'est parce qu'il protège les prochaines étapes. Il faut comprendre ce qui va se passer, là. La Constitution américaine sur le processus de destitution, là, on entend le mot impeachment, là, dans les médias. Le processus de destitution, la Chambre des représentants destitue.
Oui, alors là, le vote, c'est ça. Alors, le vote que la Chambre basse a pris hier accuse Trump d'avoir commis un acte grave passible de destitution, mais c'est au Sénat qu'il revient de déterminer si Trump sera condamné. Ce que je comprends, puis vous allez mieux nous expliquer ça, c'est que ça prend un vote aux deux tiers. Là.
Le Sénat a la responsabilité de faire le procès. C'est-à-dire que là, la Chambre dit « nous devrions destituer le président », mais la Chambre ne peut pas destituer le président seul. Il doit y avoir un procès au Sénat, et le Sénat va décider effectivement aux deux tiers. Et là, actuellement, on sait que depuis l'élection en Géorgie le 5 janvier dernier, le Sénat est divisé à part égale entre les démocrates et les républicains. Ils ont chacun 50 sièges. C'est la vice-présidente Kamala Harris qui va trancher. Mais à 50 sièges démocrates, on n'a pas le 67 les deux tiers du Sénat, les 67 sénateurs nécessaires pour juger Donald Trump.
Alors, il faudrait que beaucoup de républicains, de sénateurs républicains, changent de bord, si je peux dire.
Exactement, et abandonnent clairement le président Trump. Et il faut savoir que ce procès-là ne peut pas avoir lieu avant la fin de son mandat.
Parce que
O'Connell, le président, le leader de la majorité républicaine actuelle, a refusé de convoquer la Chambre avant le 19 janvier, et c'est le 20 janvier qui est la sermentation du nouveau président.
Fait que là, la procédure de destitution au Sénat ne devrait pas être à l'horaire avant mercredi après-midi, quand Joe Biden aura été assermenté comme président et que le mandat de Donald Trump aura pris fin.
Mais c'est important parce que le jugement que le Sénat ferait s'il y avait 67 sénateurs qui étaient d'accord, là, OK, pourrait empêcher Donald Trump d'assumer de se porter candidat à quelque charge publique que ce soit, donc ne pourrait pas être candidat en 2024, et en plus perdrait sa pension.
Oh là là!
De président.
Ouais, la protection aussi, je suppose, en fait, tout ce qui vient avec l'ex-officio, là.
Oui, oui, exactement. Et ça, c'est très important parce que M. O'Connell a dit quelque chose qui est très pertinent. Comment débarrasser le Parti républicain de Donald Trump? Et il dit peut-être que le jugement que le Sénat pourrait faire en sorte que Donald Trump ne soit plus l'aimant à l'intérieur du Parti républicain qu'il est actuellement.
Alors, vous pensez-vous que c'est possible que les deux tiers du Sénat votent en faveur de la destitution?
Actuellement, là, il y a peut-être 5 ou 6 sénateurs républicains qui ont déjà annoncé qu'ils pourraient voter pour le juger là, au terme du processus. Alors, on est loin du 67% actuellement. Mais le jour où Mitch O'Connell va dire « Moi, je vais appuyer la destitution, là, puis le jugement », il y a plusieurs sénateurs qui pourraient se joindre à lui. Mais il y a d'autres sénateurs qui actuellement sont beaucoup trop proches de Trump pour pouvoir traverser comme ça. Mais le Parti républicain est en train d'imploser actuellement. Là. C'est ça qu'il faut saisir. Là. Il demeure, là, je pense entre autres à Liz Cheney, qui est la numéro 3 républicaine à la Chambre des représentants, qui est une représentante de l'État du Wyoming. qui a voté pour la décision, parce qu'il y a 10 représentants républicains qui ont voté avec les démocrates, ce qui fait du vote d'hier quelque chose de très différent de ce qui s'est passé en 2020 quand il y a eu le premier vote de destitution là. Mais Liz Cheney, c'est la fille de Dick Cheney, qui était le vice-président de George W. Bush au début des années 2000. C'est donc l'aristocratie républicaine. Là. Ce sont les gens du leadership.
C'est une républicaine dure, là.
Elle.
Ah ouais.
Mais ça, c'est important parce que c'est une brisure là claire que plusieurs républicains n'avaient pas osé faire depuis 2016, là. De couper les ponts à ce point-là avec Donald Trump, sachant l'impact que ça peut avoir auprès des électeurs républicains dans différents États. Là.
Alors, Donald Trump a peut-être commis l'irréparable pour lui, pour son avenir, puis pas que pour son avenir politique, son avenir d'homme d'affaires. Là, il y a beaucoup de monde qui le lâche, son empire financier est beaucoup plus fragile qu'il ne le laisse croire.
Oui, tout à fait. Puis bon, on a vu hier ou avant-hier là, que la ville de New York coupait les contrats qu'elle avait avec l'organisation Trump. Entre autres, il y a une patinoire dans Central Park à New York qui est gérée par l'organisation Trump, puis un golf dans le Bronx, et la ville de New York a mis fin au contrat. C'est marginal, mais c'est symbolique en même temps. Mais quelque chose de plus important, la Deutsche Bank, qui est une des grandes banques mondiales qui a servi de financier à l'organisation Trump, a décidé de couper les ponts avec lui et avec son organisation. C'est des choses qui vont avoir un impact majeur. L'autre élément, c'est, j'aimerais bien savoir qui exactement dans les touristes internationaux vont avoir envie d'aller dans les hôtels qui sont les propriétés de Donald Trump ces temps-ci. Non? L'irréparable, il n'est pas simplement par rapport à lui-même, il est par rapport à l'image des États-Unis, à la réputation des États-Unis, au rôle des États-Unis sur la planète actuellement. Je pense qu'il a créé un tort irréparable à la réputation des États-Unis. Vous avez vu déjà des États autoritaires dire c'est pas vrai que les États-Unis vont nous faire la leçon sur la démocratie, là, parce que vous voyez bien que ça marche pas leur affaire de démocratie, là. C'est illusoire. Les Chinois ont commencé à dire à leur population, les leaders chinois ont commencé à dire à leur population, est-ce que c'est vraiment, vous avez vu ce qui s'est passé au Capitole, est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez qu'il arrive en Chine? Regardez, on va garder le contrôle pour s'assurer que ça arrive jamais. Ce que Trump a fait est majeur. Sylvain, vous permettrez de dire que on devrait nous aussi surveiller les impacts que ça peut avoir dans nos sociétés à nous ici. Est-ce que nous n'avons pas intérêt tous ensemble à revoir et à chérir nos valeurs démocratiques parce que
vous avez donc raison. Il y en a des Trumpistes ici au Québec, hein?
Oui, mais il y a des gens pour qui, je vous dirais, puis je veux pas jeter la pierre à personne, mais on oublie les fondements même de notre société, de notre liberté comme individu. Puis là, je dis ça au moment où il y a des couvre-feux, là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Nos libertés démocratiques reposent sur une pratique démocratique maintenant séculaire, et on n'a pas intérêt personne à scier la branche sur laquelle on est assis. Et je pense qu'on doit revoir certains éléments dans notre vie politique de respect des adversaires, du respect du processus électoral, de l'importance que tout ça a dans nos vies. Et c'est pas marginal, c'est pas. On parle d'élections fédérales éventuellement là au printemps, mais c'est important qu'il y ait des élections, c'est important qu'il y ait des candidats, c'est important que les candidats s'expriment, c'est important qu'on respecte le résultat des élections, et c'est important que les gouvernements qui sont élus puissent gouverner et que les oppositions qui sont élues puissent s'opposer de façon démocratique à ce qui se passe.
Mais respectueuse.
Et respectueuse, ouais. Pour que les citoyens soient toujours placés dans une situation où ils peuvent, en votant, exprimer leur opinion et leur conviction.
Il y a un député un jour qui m'a dit, alors que c'était au conseil municipal de Sorel-Tracy, pas mal moins tranquille que ce l'est maintenant, c'est incroyable quand même comment les gens qui vont au micro poser des questions sont irrespectueux pour le maire. Et je lui ai répondu, mais vous êtes-vous vu à l'Assemblée nationale avec le premier ministre? C'est... Oui, c'est vrai que les politiciens doivent agir comme des modèles.
Et je me permets d'espérer, puis je suis sûr que les gens qui nous écoutent vont être d'accord, je me permets d'espérer qu'on n'arrive jamais aux extrémités que les Américains ont vécues la semaine dernière.
L'assermentation, Denis, en terminant, de Joe Biden, comment se déroulera-t-elle, croyez-vous? Bon, vous l'avez dit, ce sera sous très haute sécurité. Est-ce que vous allez suivre ça?
Ben oui, on va regarder ça à midi.
Mais nerveusement, allez-vous être nerveux?
Non.
Non?
Sincèrement, non. Je crains les débordements, effectivement, un peu partout, là. OK? Parce que on nous a annoncé qu'il y avait... Parce qu'on voit de plus en plus que ce qui s'est passé le 6 janvier était organisé. Là, c'est pas une génération spontanée, là. Il y avait de l'organisation là-dedans, il y avait de la planification de groupes d'extrême droite puis de suprémacistes blancs, etc. Donc, c'est possible qu'il se passe des choses comme ça en même temps. Comment je pourrais dire ça? Je m'attends à ce que le leadership américain exprime à cette occasion-là la solidité de la démocratie américaine. Et je pense que la présence de Mike Pence, le vice-président américain, et la présence de trois anciens présidents, Barack Obama, George W. Bush et Bill Clinton, va aussi contribuer à présenter aux Américains une image différente de ce qu'on a vécu au cours des dernières semaines.
Merci beaucoup, Denis Marion, pour votre éclairage. Merci, Denis.
Bonne journée.
Bonne journée. Au retour de la pause, Jonathan Tremblay, il est journaliste au Journal de Montréal, on l'a connu aux deux rives. Il a subi, en pleine pandémie, une opération à cœur ouvert à l'Institut de cardiologie de Montréal. Il nous raconte ça.
CJSO 101.7 FM fête ses 75 ans. Et pour souligner l'occasion, nous vous proposons nos capsules historiques afin de revivre cette épopée.
La voix du lundi 25 juillet 1988 relate qu'après un mois d'attente, CJSO a finalement reçu le feu vert du CRTC. Monsieur Louis Delisle de la station située Place des Trembles a confirmé la nouvelle. Pour l'occasion, une parade sillonnera plusieurs rues de Sorel et de Tracy. Et dans l'édition de La Voix du dimanche 31 juillet 1988, le billet d'Yvon Deschamps parle du départ fulgurant de la station CJSO, qui vient pallier une lacune des plus évidentes, celle de couvrir les événements de façon quotidienne. CJSO revient donc en ondes sur la bande AM, toujours à la fréquence 1320, mais une grande page d'histoire est tournée. Pour la première fois depuis 1945, la station quitte le centre-ville en s'installant Place des Trembles, au 100 boulevard Couillard-des-Prés. Et les bâtisseurs de la première heure qui étaient encore là sont désormais partis. Lorenzo Brouillard, Maurice Bérubé et Joseph Cardin, celui qui fut pendant plus de 40 ans l'artisan de toutes les réalisations et progrès techniques de CJSO, appelé le bâtisseur de CJLM à Joliette, est considéré comme l'un des meilleurs directeurs techniques du monde radiophonique québécois. Il prend sa retraite à la fin de 1987.
Tout comme pour l'émission On a des choses à dire, le magazine Contact Affaires vous fait connaître nos entrepreneurs, les enjeux et les réalités de notre vie économique régionale à travers des dossiers d'actualité. Publié deux fois par année depuis plus de 20 ans et distribué dans tous les lieux d'affaires de la région, le magazine Contact Affaires est édité par Cournoyer Publications. Il est disponible au bureau de Cournoyer Publications, à CJSO 101.7 et en ligne sur contactaffaires.com.
Quand vos parents ont besoin d'aide, vous êtes là. Quand vos enfants ont des craintes, vous êtes là. Quand vos amis vivent un moment difficile, vous êtes là. Soyez là pour vous, comme vous l'êtes pour vos proches. C'est possible que la situation actuelle vous fasse ressentir des émotions difficiles ou même de la détresse. Si vous éprouvez de la difficulté à réaliser les actions du quotidien, des solutions existent. Rendez-vous sur québec.ca/allez-mieux ou appelez Info Social 811. Un message du gouvernement du Québec. Nanana.
De retour à On a des choses à dire, une présentation de Meubles André Beaulieu, Lucien Dale Parizeau, cabinet d'assurance et du magazine Contact Affaires.
On a connu Jonathan Tremblay comme journaliste aux Deux-Rives. Il a fait le saut dans la grande métropole. Il signe maintenant des textes pour le quotidien québécois le plus lu, le Journal de Montréal. Il a rédigé l'un des articles les plus lus lundi, racontant sa propre histoire, opérée à cœur ouvert en pleine deuxième vague de COVID-19. Bon midi, Jonathan.
Bonjour, M. Rochon. C'est très gentil comme introduction.
comment allez-vous? Vous avez une bonne voix, en tout cas?
Ah, ça va pas si mal. Là. Des fois, je suis un petit peu plus essoufflé quand les discussions s'allongent, mais somme toute, je vais quand même assez bien.
Alors, vous me condamnez à la brièveté pour l'entrevue. On va faire.
Je sais que c'est pas de votre habitude.
Je sais pas comment je dois le prendre. Commençons par le début, Jonathan. Vous savez, depuis pas juste... c'est pas récent que vous savez que vous souffrez d'une malformation cardiaque. Le Journal de Montréal n'a pas attendu que vous y soyez journaliste pour que votre nom y apparaisse. En 1993, il racontait votre histoire, celle d'un premier bébé bleu sur lequel une chirurgie à cœur ouvert avait été tentée avec brio dans la province en suivant des méthodes réservées aux patients adultes. Pourquoi bébé bleu?
Ben, en fait, c'est que quand on est de avec cette malformation-là, ou du moins il y a quelques types de malformations cardiaques là, de ce type-là, qui donnent un teint bleuâtre au bébé. Puis la légende veut, là, ce qu'on m'a raconté, parce que disons que j'étais pas très conscient à ce moment-là. Ce serait ma grand-mère, quand elle m'a vu dans l'incubateur, qui aurait dit à mes parents et aux médecins qui étaient prêts, ou les infirmières, là, écoutez, cet enfant-là, je pense qu'il y a quelque chose, il y a pas un beau teint, là, tu sais. Fait que là, c'est là qu'ils ont fait des tests et rapidement, ils se sont rendus compte qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait pas. Puis j'ai été transféré à l'hôpital Saint-Justine d'urgence à ce moment-là.
Bon, chirurgie tentée avec brio dès votre plus tendre enfance, bien qu'on savait qu'il vous en faudrait une autre des années plus tard?
Ben, en fait, moi, depuis plus loin que je me souviens, mes parents me disaient que c'était possible qu'il y ait une deuxième opération à l'âge de 16 ou 17 ans, parce que la valve pulmonaire qui était bouchée quand je suis né, eh bien, ils l'ont carrément débouchée et ça faisait que le sang reflouait, si on veut, à ce moment-là. Et il y avait un bon pourcentage de mon sang là, qui était mal oxygéné. Donc, on se doutait qu'il y avait une seconde chirurgie qui allait suivre. Et là, avec le sport que j'ai fait tout au cours de mon adolescence et même à l'âge adulte, là, a peut-être mené à une opération plus tardive. Là, c'est à 29 ans qu'on m'a dit c'est là que ça se passe.
Bon,
que,
alors vous, Jonathan, là, depuis des années, vous savez que tôt ou tard, vous allez retourner sur la table d'opération. On vit comment avec ça? C'est pas terrorisant?
Ben, je dirais que il y a une bonne partie de ma vie où je vivais dans le déni, puis que j'avais un peu oublié, tu sais, quand on fait du hockey universitaire, de la crosse universitaire, du rugby universitaire, on oublie les bobos un petit peu, puis c'est vraiment là, dans les deux trois dernières années que j'ai commencé à plus ressentir un petit peu de l'essoufflement dans des moments banaux comme monter une montagne ou tu sais. Qui normalement serait une petite randonnée facile devenait un petit peu plus compliqué. Là, fait que je savais que mon jour s'en venait. Là.
Bon, le 18 novembre, vous recevez l'appel que vous redoutez.
Ouais, c'est sûr. Ben je redoutais cet appel-là, mais en même temps, faut dire que je me considère extrêmement chanceux là, en ce moment. On le voit dans les médias. Mes collègues l'ont écrit à plusieurs reprises. Là, il y a 140 000 personnes qui sont en attente de chirurgie. Moi, j'ai eu la chance à l'Institut de cardiologie d'avoir aucun délai, en fait, parce que c'est un hôpital qui est considéré comme vert, c'est-à-dire que il y a personne qui a la COVID ou qui est soupçonné d'avoir la COVID qui entre dans les murs. On sait qu'il y a eu des éclosions là, qui provenaient peut-être des employés et tout ça, mais somme toute, de manière générale, il n'est pas censé avoir de COVID-19 dans les murs de l'Institut. Donc, il n'y a pas eu de retard à ma chirurgie. Fait que oui, je le redoutais, mais en même temps, avec tous les témoignages que j'ai reçus, je me considère chanceux. Là.
Vous êtes opéré le 4 décembre, en pleine pandémie. Ça veut dire ça, que vous êtes seul. Il n'y a personne pour vous tenir la main. Vous racontez votre journée dans un article qui est toujours disponible sur le site du Journal de Montréal. Pouvez-vous refaire un peu cette histoire pour nos auditeurs? Il y a d'abord ce test de dépistage de la COVID-19 que vous avez dû passer. C'est 24 heures après avoir reçu le résultat que vous avez été admis à l'Institut.
Oui, exactement. Puis là, une fois rendu là, écoutez, il y a personne qui m'a dit que mon père n'avait pas le droit de m'accompagner pour mon admission, mais je comprenais bien que dans les circonstances, mon père ayant 64 ans, moi qui m'en allais là tout seul pour plusieurs jours, je me disais, bon, ben, on s'est laissé à la porte, puis je suis rentré de mon propre chef seul, puis c'est sûr que cette soirée-là, là, tout juste avant la chirurgie, on se sent petit dans nos culottes, là. On n'est pas très fort mentalement.
Ben oui, la veille de l'opération, la batterie de tests, je suppose, et pas une très bonne nuit. Est-ce que vous sentiez le personnel empathique? Est-ce qu'il était chaleureux? Est-ce qu'il était aimant?
Ah, à l'Institut de cardiologie, là, on peut pas se tromper. Là. C'est vraiment des professionnels qui sont très généreux de leur temps, sont à l'écoute, autant les préposés que les infirmières, que les chirurgiens. Tu les accostes dans le corridor puis ils prennent le temps de te rassurer. Là, fait que et moi que je me considère comme quelqu'un d'assez capricieux, là, ils ont quand même répondu à l'appel quand j'avais des doutes ou des questions. Comme journaliste de formation professionnelle, là, je suis assez sceptique quand on veut me faire prendre des trucs. Puis pourtant, je suis pas médecin, je sais pas qu'est-ce qu'ils veulent me donner comme dose à gauche, à droite. Fait que je posais beaucoup de questions, mais très 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 généreux de leur temps.
Il est 5h30 du matin. Il est 5h30 le matin de l'intervention quand on entre dans votre chambre pour la préparation finale.
Oui.
Là, le stress, il est là, hein?
Ah, écoutez, que j'avais hâte qu'ils me donnent les petites pilules pour que je perde la carte un petit peu. Mais apparemment, que c'est la procédure, c'est qu'ils commencent juste à donner ces comprimés-là et ces médicaments par intraveineuse une fois rendu au bloc opératoire. Fait qu'il a fallu que je prenne mon courage à deux mains et que j'attende d'être rendu là pour me fermer les yeux, disons.
L'opération va durer combien d'heures?
Écoutez, j'en ai eu pas vraiment connaissance, mais...
Non, évidemment.
Ça a été
j'espère.
4h, 4h et demie.
4h, 4h et demie. Elle consiste à quoi, l'opération, au fait?
En fait, là, cette fois-ci, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils m'ont remplacé la valve pulmonaire et ils ont mis une valve porcine à la place, qui a un petit anneau d'acier ou de métal autour. J'imagine que c'est de l'acier qui remplace carrément là, la valve biologique que j'avais à la naissance. Qui va faire mieux filtrer, dans le fond, le sang de mon cœur à mes poumons.
D'accord. Vous vous réveillez avec deux drains plantés dans votre ventre, le sternum broché. Vous ne deviez pas être fort?
Ah, je vous dirais que quand on se réveille, on est branché d'un peu partout, des intraveineuses dans le cou, dans les bras, des fils à la grandeur de notre corps. Je vous dirais que pour le premier 24 heures, j'ai pas eu connaissance de grand-chose parce que le dilodide était assez puissant, mais une fois rendu à l'étage là où j'ai dégrisé un peu et j'ai repris conscience, là, ça a été pas si mal pour vrai. Je m'attendais, je l'imaginais à mes proches en disant que j'avais l'impression qu'un train allait me passer sur le corps. Puis finalement, c'était une petite Yaris. C'était pas si pire que ça.
Ouais, mais une Yaris, ça fait pas du bien.
Plus que de mal.
La Yaris fait pas du bien pareil. Vous racontez dans votre article que dès le lendemain de l'opération, doté d'une énergie tant surprenante qu'inattendue, et je vous cite, vous cumulez les allers-retours dans le corridor, masque au visage pour vous délier les muscles. Que constatez-vous à l'intérieur de cet institut?
Ben, en fait, c'est que tu vois des travailleurs de la santé qui sont extrêmement dévoués. Là. Ça court à gauche, à droite. Ça prend des pauses, mais on sait pas où ils les passent, leurs pauses, parce que 30 secondes plus tard, ils sont revenus puis sont déjà en train de te soigner puis de t'apporter ton repas et tout ça. Fait qu'on les sentait vraiment dédiés là, à la cause. Et à un certain moment, je sais que vous allez probablement me poser la question, mais il y a eu la COVID sur mon étage. Ben, en fait, il n'y a pas eu la COVID, mais il y a un préposé aux bénéficiaires qui a contracté la COVID. Et dans le fond, il a fallu qu'on fasse tous les tests. Tout l'étage a passé un test. Puis c'est sûr que c'est un bout un peu plus stressant, mais on voyait que...
Parce que vous avez dit...
Les gardes de leur calme.
Vous vous êtes sûrement dit, s'il faut que je tousse avec cette COVID-là, le sternum broché, ça va être invivable.
À éternuer, tousser, là, même rire, en fait, j'ai encore un peu de difficulté, là, fait que c'est certain qu'il faut pas que je m'énerve, faut pas que je prenne de chance, que je prenne de risque de frapper cette COVID-là, parce que je suis pas sûr que j'aimerais les jours qui suivraient.
Votre convalescence va durer combien de semaines encore, Jonathan?
Ben, de manière générale, on dit que c'est environ 3 mois avant un retour au travail. Est-ce que ça va être plus court, plus long? Je pourrais pas le dire pour l'instant, mais pour l'instant, j'ai l'impression que je me dirige vers le bon temps qu'on m'a attribué.
Je me souvenais pas de vous comme d'un gars capricieux, Jonathan. Je me souvenais de vous comme d'un gars immensément sympathique. Et ce souvenir était juste, je vous souhaite une excellente convalescence. Puis on a hâte de vous relire dans le Journal de Montréal.
Merci, c'est bien apprécié.
Merci, Jonathan Tremblay.
Salut.
Merci. Alors, chers amis, le CLD de Pierre de Sorel a un nouveau conseiller aux entreprises et coordonnateur des fonds. Il n'a pas échappé aux Sorellois de mon âge et plus âgé que moi que son nom était De Tilly, Antoine De Tilly, et le fils de Mario De Tilly, qui fut commissaire industriel chez nous avant de prendre la direction de Saint-Hyacinthe et maintenant Trois-Rivières. Alors, on va parler à Antoine immédiatement après la pause.
Quand vos parents ont besoin d'aide, vous êtes là. Quand vos enfants ont des craintes, vous êtes là. Quand vos amis vivent un moment difficile, vous êtes là. Soyez là pour vous, comme vous l'êtes pour vos proches. C'est possible que la situation actuelle vous fasse ressentir des émotions difficiles ou même de la détresse. Si vous éprouvez de la difficulté à réaliser les actions du quotidien, des solutions existent. Rendez-vous sur québec.ca/allez-mieux ou appelez Info Social 811. Un message du gouvernement du Québec.
Afin de mieux planifier votre prochaine randonnée en motoneige et pour profiter des meilleures conditions, nous vous invitons à écouter la chronique sur les conditions de sentier motoneige diffusée à tous les jeudis 8h40. Vous obtiendrez un résumé complet concernant les conditions des sentiers et l'organisation des différentes activités. Les conditions sentier motoneige, une présentation de la Halte des 103 îles, Métaux Richer et Frères Inc. et Performance NC.
Chez Meubles André Beaulieu, nous tenons à vous rappeler que nous sommes de tout cœur avec vous dans cette situation particulièrement difficile en vous offrant un service d'urgence avec livraison gratuite pour tous vos besoins. Qu'il s'agisse de réfrigérateurs, congélateurs, cuisinières, laveuses ou sécheuses, contactez-nous sans tarder au 742-2708 ou encore par messagerie Facebook. Visitez le meublebeaulieu.ca ainsi que notre page Facebook pour de plus amples renseignements et suivre nos mises à jour quotidiennes.
Ce message s'adresse à l'ensemble de la nation québécoise. Nous devons agir avec force pour freiner la pandémie. Seuls les services essentiels demeurent offerts. Les rassemblements sont interdits. Il est défendu de quitter son domicile entre 20h et 5h le matin. Respectons le confinement et le couvre-feu pour éviter d'être infectés par le virus de la COVID-19. Pour protéger les travailleurs de la santé, nos proches et nos aînés. Car l'important, c'est la santé. Pour plus d'informations, visitez québec.ca/confinement. Un message du gouvernement du Québec.
De retour à On a des choses à dire, une présentation de Meubles André Beaulieu, Lucie Dale Parizeau, cabinet d'assurance et du magazine Contact Affaires.
Alors, nouveau conseiller aux entreprises et coordonnateur des fonds locaux au CLD de Pierre de Sorel, Antoine De Tilly, qui est le fils de Mario De Tilly. Bon midi, Antoine.
Ben, bonjour.
Est-ce que ça vous agace d'être le fils de... Antoine, est-ce que ça vous agace d'être présenté comme le fils de...
Non, pas du tout. En fait, je suis très fier de ça, de ce que mon père a accompli durant toute sa carrière. Mais en ce moment, c'est le temps de faire mon image, de faire mes propres preuves.
OK, je veux pas vous décourager, mais je suis encore, pour plusieurs, le fils de Claude Rochon, qui a fait de la radio avant moi à cette antenne, et ce Claude Rochon a 90 ans, alors vous êtes mieux de vous y faire.
Oui, je m'en doute. Je m'en doutais beaucoup quand je suis arrivé ici à Sorel. On allait me référencer avec mon père.
Au moment où votre père a travaillé ici, à Sorel-Tracy, vous n'étiez même pas dans ses pensées à ce moment-là.
Non, pas du tout. En fait, quand il est arrivé ici à Sorel, il avait à peu près mon âge. Donc, on est arrivé en même temps, même poste. Donc, je suis venu un peu plus tard, là, quand il était à Saint-Hyacinthe.
Bon, là, vous me forcez à vous demander votre âge, là.
26 ans. J'ai eu 26 ans le 29 décembre, donc, dernier. Donc, c'est tout récent.
Vous avez grandi où?
À Saint-Hyacinthe. On a vécu pendant 20 ans. J'ai vécu pendant 20 ans à Saint-Hyacinthe. Mes parents avaient une maison, là. Et ensuite de ça, là, les choses ont fait qu'ils ont déménagé à Trois-Rivières, tout ça. Et c'est ça.
L'intérêt pour le développement économique, vous le tenez de papa, mais de maman aussi.
Exactement, c'est ce que j'allais dire. Ben oui, mes parents ont travaillé, c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés, en fait, à Saint-Hyacinthe, au CLD. Ils ont travaillé pendant 25 ans là, au CLD des Mascoutins. Donc oui, je tiens cet intérêt-là de tous les deux.
Fait que là, il manquerait plus que vous fassiez une blonde au CLD.
Exactement.
Pour suivre parfaitement les traces de votre père et de votre mère. L'intérêt pour le développement économique, bon, vous le tenez, je le disais, de vos parents, mais au-delà de ça, qu'est-ce qui vous passionne là-dedans?
Mais en fait, mon père, ça vient de mes parents, mon père m'a toujours dit « c'est le plus beau métier du monde, c'est le plus beau métier du monde ». Ça, je me suis dit un jour, je dis « bon, je vais me lancer là-dedans, je vais essayer ». Et ce que je trouve qui est le plus beau avec ce métier-là, c'est de pouvoir faire grandir un rêve. Les entrepreneurs qui viennent de voir, ils ont une idée, un rêve, un but de partir leur entreprise. Donc, de les aider à faire croître ce rêve-là, de faire croître cette idée-là et que ça fonctionne. Mais en fait, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de beau par rapport à ça. Puis je trouve que c'est ce qui m'a amené à faire ça, c'est d'aider ces gens-là et de faire une différence.
OK, on jase, là. On apprend à vous connaître, Antoine. De quelles qualités avez-vous hérité de votre père et de votre mère?
Je vous dirais le côté humain. Je suis quelqu'un de très sociable, j'adore les gens, et c'est ce qui m'a poussé là, à aller vers ce métier-là, parce qu'avant, donc dans mes emplois précédents, dans mes emplois précédents, en fait, j'étais derrière un ordinateur comme programmeur et j'avais pas ce côté social-là. Donc, c'est ce qui m'a poussé là, à prendre cette tangente-là dans ma carrière.
Est-ce que vous connaissiez Sorel Tracy?
Pas du tout. Pas du tout. J'ai un frère qui est ici à Saint-Ours. J'étais venu peut-être une fois ou deux avec mon père pour lui rendre visite. Mais sinon, non, c'est tout nouveau. Je me suis installé ici lundi dernier, donc j'ai mon petit appartement, et c'est ça, c'est tout frais.
Est-ce que nous avons ce qu'il faut ici pour réussir? Quelles sont les forces de Sorel Tracy?
Mais en fait, je crois qu'on a tout pour réussir, donc on a des belles entreprises ici. C'est sûr que ça va être un petit peu plus difficile pour moi de m'avancer sur le sujet. Je connais pas tous les enjeux économiques de la ville, mais je me donne le temps de l'apprendre et je vais avoir plus de réponses pour vous là, par la suite. En fait, je crois que c'est une très belle région et qu'on a tout pour réussir, oui, de ce que je vois pour l'instant.
Mais vous avez quand même dit, j'en sais un petit peu de Sorel Tracy avec votre père, non? On vous croira pas si vous dites que non.
Ben un petit peu, c'est sûr, mais il m'a plus parlé de comment ça fonctionnait le développement économique en général, moins de la ville de Sorel. Je pense qu'il voulait vraiment que je me fasse mes propres idées et que je vois là, ce qui se passait, les enjeux et tout ça par moi-même.
Il est rendu, Mario, à Trois-Rivières, hein?
Oui, tout à fait. Directeur général de ID Trois-Rivières.
Bon, là, il va-tu avoir une saine compétition entre vous deux, là?
Ben, je parlerai pas de compétition, mais oui, c'est sûr qu'on va garder un contact. Si j'arrive, s'il m'arrive des petits pépins ou j'ai des conseils, je pense qu'il va toujours être là pour me donner un petit coup de pouce, c'est sûr.
Vos fonctions au CLD, Antoine de Tilly, expliquez-les-nous.
Mais en fait, je suis rentré en poste comme conseiller aux entreprises et coordonnateur des fonds. Donc, moi, mon but, c'est d'accompagner les entreprises, de les aider à monter un plan d'affaires, leur trouver du financement pour faire croître leur entreprise. Coordonnateur des fonds, donc on parle du fonds local d'investissement et fonds des jeunes promoteurs. Donc, c'est des programmes qu'on offre pour aider ces entreprises-là, leur donner du financement pour que eux ensuite, ça serve de levier pour aller chercher du financement supplémentaire ailleurs. Donc, c'est de les faire entrer en contact, par exemple, avec... s'ils veulent aller chercher du financement supplémentaire avec la BDC et tout ça. Donc, moi, c'est de faire cet accompagnement-là et de tout faire pour faire croître leur entreprise, en fait, avec le financement adéquat.
Est-ce que c'est difficile, à 26 ans, vous nous avez dit, j'ai 26 ans, de conseiller des entrepreneurs, hommes et femmes, souvent plus âgés que nous? Est-ce qu'on est pris au sérieux? Est-ce que c'est difficile d'être pris au sérieux?
Bien, en fait, je crois pas. J'ai les compétences et les connaissances nécessaires. Donc, j'ai fait marketing, finance, j'ai fait de l'intelligence d'affaires. Donc, j'ai pas été confronté à ce problème-là encore. Et c'est tout nouveau, mais je crois pas. Donc, comme je disais, j'ai les compétences et les connaissances nécessaires pour pouvoir aider ces gens-là. Donc, je crois pas qu'il va y avoir de problème là, à ce niveau-là. Je débute ma carrière, donc je suis là pour faire mes preuves, puis je crois que les gens vont voir que je suis capable de faire un très bon travail.
Je reviens à Sorel Tracy, dont je vous demandais si nous avions ce qu'il fallait pour réussir, quelles étaient nos forces, quelles étaient nos faiblesses. Je comprends qu'après une semaine, vous n'avez pas fait le tour de ça, mais qu'est-ce qui vous a frappé positivement et moins positivement en arrivant ici, là? Vous
devez vous parler... En arrivant ici, le côté positif que j'ai vu, c'est l'accueil des gens. Sincèrement, c'est incroyable. Les gens sont super sympathiques. C'est vraiment une belle ville. Donc, je parle de mon expérience ici au CLD. Tout le monde m'a accueilli à bras ouverts. Je trouve que les gens sont vraiment, vraiment sympathiques. Et je trouve que ça fait une différence. Côté négatif, je n'ai rien à dire. Sincèrement, je me laisse le temps à prendre de voir là, ce qui va se passer. Mais pour l'instant, j'apprécie beaucoup la ville de Sorel.
Là, vous vous joignez à une toute petite équipe. C'est une toute petite équipe, le Centre local de développement de Pierre de Sorel. D'ailleurs, qui changera de nom, là, sauf erreur, là, qui deviendra Développement économique Sorel-Tracy Région?
Oui, tout à fait. Nous sommes 6 employés présentement. On a plusieurs conseillers et notre directeur général là, ici, qui est Anthony Savard.
Oui, d'ailleurs, ce sont ces anciennes fonctions que vous reprenez, hein?
Tout à fait, tout à fait.
Et cette équipe, elle est appelée à grandir suite à des annonces gouvernementales. Je pense que vous aurez, là, tôt ou tard, deux nouveaux collègues.
Deux nouveaux postes, oui, avec accès Entreprise Québec. Donc, on prévoit ça pour les, d'ici 2022, l'embauche de deux ressources supplémentaires.
Alors, c'est une belle gang.
Pardon?
Une belle gang qui travaille pour une région qui a, à votre point de vue, là, tout pour réussir.
Oui, tout à fait.
Merci beaucoup, Antoine de Tilly. Meilleure des chances chez nous, d'autant plus que votre succès fera le nôtre comme région.
Oui, hein? Tout à fait.
Merci, et je ne pouvais pas l'oublier, saluez votre père pour nous.
Ouais, ben merci beaucoup.
Merci.
Bye.
Voilà, c'était Antoine de Tilly. Alors, j'espère que cette émission, chers amis, aura su vous intéresser. Je remercie l'ensemble de mes invités. Denis Marion, qui est venu nous parler de nos voisins du Sud et de politique américaine. Jonathan Tremblay, aujourd'hui journaliste au Journal de Montréal, qu'on a connu intimement à Sorel-Tracy parce qu'il a pratiqué son métier aussi au journal Les Deux Rives. Et finalement, Antoine de Tilly. Je réitère mes vœux de prompt rétablissement à Jean Lemay. Vous savez, la COVID-19, pour nous à CJSO, c'était jusqu'ici des chiffres, des statistiques. On savait bien qu'il y avait du monde derrière ces chiffres-là, mais vous savez pas comme c'est différent quand on connaît quelqu'un dans notre propre entourage qui a attrapé ce fichu virus. Pour la santé duquel on a eu peur, Jean était hospitalisé aux soins intensifs à Charlemagne, départ en ambulance, d'abord vers l'Hôtel-Dieu, ensuite vers Charlemagne. Il est de retour à la maison, il prend du mieux, mais ça nous a donc conscientisé à ce virus-là. Alors, soyez très, très, très prudents toutes et tous. Mais voilà, mesdames, messieurs, ça m'a fait plaisir d'être là. Et je vous dis à la prochaine fois. Bon après-midi à l'antenne de CJSO.